Docteur Robert Yarbrough, Épître pastorale, Session 5. 1 Timothée 4. Symbole copyright 2024 Robert Yarbrough et Ted Hildebrandt. Il s'agit du Docteur Robert W. Yarbrough et de son enseignement sur les Épîtres pastorales, l'instruction apostolique pour les dirigeants pastoraux et leurs disciples. Séance 5, 1 Timothée 4. Eh bien, nous arrivons à un autre chapitre de notre étude des Épîtres pastorales. Et dans 1 Timothée, nous sommes dans 1 Timothée 4, alors que nous examinons l'instruction apostolique pour les dirigeants pastoraux et pour leurs disciples. Et nous avons déjà vu que Paul aborde une situation à Éphèse où le chef pastoral en charge sous la direction de Paul s'appelle Timothée. Et il fait face à l'opposition des gens, ce qui semble peut-être basé sur la loi de l'Ancien Testament. Et il y a eu une certaine confusion et même certains individus sont apparus comme des opposants à l'Évangile, des opposants à l'Église, créant peut-être des ennuis à Timothée. Et Paul a commencé à jeter les bases pour stabiliser les choses et former les dirigeants à mesure que nous avançons dans l'Église. Et nous aurions pu penser que c'est une situation assez gérable et que Timothée peut la gérer. Mais nous allons découvrir maintenant que Timothée est dans ce que j'ai entendu un pasteur appeler les mauvaises herbes profondes. Il est parti dans la jungle maintenant parce que les choses sont difficiles, pas seulement parce qu'il y a ces faux enseignants et quelques individus, mais nous avons des forces spirituelles à l'œuvre qui nous rappellent Acte 19 et l'endroit où se trouvait Éphèse, dominé par ses modes de vie. Et ses pratiques qui semblent en quelque sorte inviter à l'impie et à l'immoral et ainsi de suite. Ainsi, dans 1 Timothée chapitre 4, l'Esprit est en majuscule parce que nous mettons en majuscule des mots qui ont à voir directement avec Dieu. L'Esprit dit clairement que plus tard, certains abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs et des choses enseignées par des démons. Je veux me rappeler ce que je vais observer ici. Nous avons déjà entendu parler de l'abandon de la foi d'Hyménée et d'Alexandre, mais maintenant il souligne que cela est en train de se produire. De tels enseignements proviennent de menteurs hypocrites, et je vais relier cela aux enseignements dont nous l'avons déjà entendu parler par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et ces gens ont la conscience brûlée comme au fer rouge. Cela signifie qu'ils ne sont pas capables de discerner qu'ils ont tort ou comment ils ont tort. Cela peut être une situation très dangereuse. Et parfois, nous entendons parler de personnes coupables d'actes criminels comme le meurtre. Et puis nous avons découvert que lorsqu'ils étaient enfants, ils aimaient torturer les chiens. Et il existe une sorte de schéma de développement d'une incapacité pathologique à avoir une perception humaine normale. Eh bien, cela se produit dans le domaine spirituel. Les gens peuvent enseigner et enseigner la religion, enseigner le christianisme, mais ce sont en réalité des menteurs hypocrites. Et leur conscience ne leur crie plus dessus et ne leur dit plus, arrête, tu fais mal. Ils pourraient même penser qu'ils font bien. Et voici des exemples des résultats des faux enseignements dont Paul est conscient. Ils interdisent aux gens de se marier. Et dans l'histoire de l'Église, il y a eu des exemples de personnes qui ont vécu ensemble en communauté. Ils ont décidé que puisqu'ils étaient sauvés et que tous leurs péchés étaient pardonnés, ils pouvaient simplement se livrer à eux-mêmes comme ils le voulaient et que tout ce qui leur apportait du plaisir et de la joie, Dieu était là. Parce qu'il est dit de se réjouir toujours dans le Seigneur. Donc, ils ne se sont pas mariés, ils ont juste eu des relations sexuelles ensemble. Je veux dire, cela s'est produit dans l'histoire de l'Église, au nom de l'Église. Et quand nous interdisons le mariage sur cette base, c'est un mensonge hypocrite. Aujourd'hui, les gens ont pour effet d'interdire le mariage parce qu'ils disent aux jeunes ou même aux chrétiens de l'Église, non pas qu'ils sont sous un mandat de création et une grande mission, mais qu'ils doivent exercer leur réalisation personnelle. Et ils doivent avant tout se soucier de leur carrière. Et donc, les adolescents, ils vont à l'université, puis ils vont aux études supérieures, puis ils ont la vingtaine, la trentaine, ils ne sont toujours pas mariés. Ils ne peuvent pas se marier parce que ce serait très humiliant aux yeux de la culture. Et surtout si vous devenez maman. Et ce n'est pas que tous ces gens mènent une vie de chasteté et de pureté. Beaucoup d'entre eux le font, ils font l'amour. Je ne dis pas qu'ils le sont tous, mais c'est typique si vous avez la vingtaine, au cours des mois et des années, vous allez être sexuellement actif quelque part, mais vous ne vous mariez pas parce que cela ruinerait votre carrière. cela vous retiendrait. Vous ne voulez pas être redevable de la carrière de cette autre personne. Vous voulez être libre de faire carrière et vous ne voulez certainement pas d'enfants. Donc, je pense que dans la plupart des cultures, nous pouvons trouver des moyens pour que des gens prônent des visions religieuses qui entrent en conflit avec l'appel de Dieu pour qu'un mari et une femme, un homme et une femme soient ouverts à une alliance de mariage afin qu'ils puissent remplir le mandat de création et ont un grand microcosme de commission en ce qui concerne leur foyer. Il leur ordonnant également de s'abstenir de certains aliments. Et il y a des traditions de jeûne ou des traditions végétaliennes ou des traditions de ne pas boire ceci ou de ne pas manger cela ou de manger et de boire seulement à certaines heures. Dieu a créé les aliments, Dieu a créé le mariage pour qu'il soit reçu avec action de grâce par ceux qui croient et connaissent la vérité. Et d'ailleurs, pour tout le monde, le mariage est une bonne chose pour tout le monde. Les aliments que Dieu a créés sont bons pour tout le monde, mais surtout pour ceux de l'Église. Et c'est ce qui préoccupe Paul. Il s'inquiète des faux enseignements dans l'Église, qui font que les bons dons de Dieu sont ignorés, s'en abstiennent et sont acceptés d'une manière inutilement compliquée alors qu'il devrait y avoir des actions de grâces et de la joie. Nous devrions nous réjouir des bons dons de Dieu et nous ne le pouvons pas à cause de ces faux enseignements. Pour tout ce qui a été créé, excusez-moi, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter s'il est reçu avec action de grâce parce qu'il est consacré par la parole de Dieu dans la prière. Maintenant, Paul veut dire que rien ne doit être rejeté s'il s'agit d'une substance licite reçue dans l'esprit de la volonté de Dieu. Dans un sens, toute matière est créée par Dieu, et comme il existe des drogues hallucinogènes. Mais il ne dit pas ici que c'est créé et que Dieu a donc conçu des drogues hallucinogènes à prendre. Non, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait, il ne parle pas de toxicomanie. Il parle de la nourriture et du mariage et des moyens de grâce communes, de la chaleur du soleil et du parfum de l'air de la source et de l'eau pour l'irrigation, de toutes les choses que Dieu a créées. C'est un monde bon dont il faut profiter avec la faveur de Dieu et cela fait partie de la fécondité, de la multiplication, de la reconstitution de la terre et de sa soumission. Nous utilisons les ressources que contient le monde créé et nous ne devons pas rejeter ces choses inutilement parce qu'elles sont consacrées par la parole de Dieu dans la prière. Nous apprenons de la parole de Dieu le bon usage de ces choses et en communion avec Dieu, en prière avec Dieu et en adoration de Dieu, ces choses sont utilisées de manière à honorer Dieu. Je ferai observer à propos de ce passage que le reste, depuis la résurrection, les temps ultérieurs sont arrivés. Je pense que les gens font une erreur courante parce que les traductions disent dans les derniers temps et ensuite les gens pensent à un livre sur l'échatologie et l'enlèvement et toutes ces sortes de choses. Et je ne pense pas que Paul fasse référence au futur à partir du sien. Je pense qu'il fait référence à son propre présent, qui dans les études chrétiennes, nous parlons du déjà et du pas encore. Le Christ est déjà ressuscité et la fin des temps est donc arrivée lorsqu'il est ressuscité. La mort a été vaincue pour toujours. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons de l'espoir et une raison pour laquelle nous avons de la joie, c'est parce que nous ne nous interrogeons pas sur l'issue de la bataille entre Christ, Satan et le mal. La mort a été éternellement frustrée, mais nous ne voyons pas encore la plénitude de la réalisation de la promesse de Dieu. Nous n'avons pas encore été glorifiés. Le Christ n'est pas revenu. Le monde n'a pas été transformé. Néanmoins, depuis la résurrection, les temps ultérieurs sont arrivés et la bonne grâce commune de Dieu, ainsi que sa grâce spéciale, sont déformées et opposées. Le Christ est déjà Seigneur, mais nous ne voyons pas encore sa Seigneurie partout car, au moment où je parle, cela datera de ce que je vais dire, mais je pense que les gens s'en souviendront pour toujours dans un avenir proche. L'invasion russe de l'Ukraine et les brutalités qui s'y produisent et les gens qui crient, combien de temps, ô Seigneur, et pourquoi, mon Dieu? Pourquoi les bons dons de Dieu sont-ils détournés et opposés de telle sorte que des gens soient bombardés et des enfants tués dans les gares et les écoles? Ce ne sont pas des combattants ennemis, mais nous vivons dans un monde où les gens tuent volontairement des enfants au nom de leur vision politique du monde. La parole et la prière de Dieu sont des moyens de nous préserver et de nous guider. Le monde, le mariage, la nourriture, ces choses sont là. Ils doivent être affirmés. Il devrait être une source de joie et de subsistance et, une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de dirigeants pasteurs, nous avons besoin de femmes disciples pieuses, nous avons besoin de disciples hommes pieux, de sorte que dans l'Église soit pleine de gens qui sont nourris sur la parole et qui vivent une vie de prière afin que nous puissions constamment réaffirmer la bonté du mariage, la qualité de nos repas, la qualité d'une nuit de sommeil, afin que nous puissions rester optimiste, être motivé pour avoir une alimentation saine et pour avoir une vie saine, faire de l'exercice, dormir suffisamment. Je sais que la maladie arrive et que nous ne pouvons pas tous vivre une vie idyllique, mais parfois les gens sont très frustrés et abattus dans la vie parce qu'ils ne traitent pas la vie comme un cadeau qu'elle était. Ils ont du mal à être reconnaissants parce qu'ils sont tellement alourdis par leur ressentiment que les choses sont misérables. Donc, pour glorifier Dieu de manière large, nous devons commencer par les petites manières dont il nous bénit et je pense que pratiquement tout le monde peut trouver des choses qui pourraient être bien pires et quoi qu'il y ait dans notre vie qui ne soit pas aussi mauvais qu'il pourrait l'être, nous seulement j'ai une chose à remercier et c'est Dieu. Ce n'est pas une chose, c'est un être. Parce que sans Satan, nous serions morts demain. Il est le maître du mensonge et du meurtre, mais Dieu est le Dieu de la vie et de la promesse et donc tout de bon et parfait vient d'en haut, le Père des Lumières, dit Jacques, tout de bon et parfait. Donc Paul en bref, il disait, c'est la fin des temps, la résurrection est venue, Christ pourrait revenir à tout moment. Les gens déforment les choses pour que la bonté du monde ne puisse pas être appréciée. Restez dans la parole, restez dans la prière pour ne pas devenir la proie de ces visions d'un monde misérable dont nous ne pouvons être préservés qu'en ne l'utilisant pas bien. Si vous faites remarquer ces choses aux frères et sûrs, verset 6, vous serez un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des vérités de la foi et du bon enseignement que vous avez suivi. Remarquez le jaune là, bon serviteur, c'est un diacono, un ministre de Jésus-Christ. Or, un commandement n'a rien à voir avec les mythes impies et les contes de vieilles femmes. C'est une traduction anglaise d'un terme grec qui, je veux dire, signifie un peu la même chose. Et je me souviens quand j'étais très jeune, j'écoutais ma grand-mère et elle vivait à la campagne et certaines des choses qu'elle disait avaient l'air folles. Et surtout quand elle téléphonait et parlait avec les autres dames, elle parlait de choses folles. Et je pense que dans de nombreuses cultures, il y a des choses qui se transmettent et qui sont plutôt étranges. Et Paul utilise cela comme une image d'analogie pour les choses dont on parle dans la religion. Ne vous impliquez pas dans ces contes et visions mythologiques infructueux. Au contraire, et c'est un terme athlétique, entraînez-vous, entraînez-vous à la piété. Maintenant, la NIV se traduit par « piété », mais c'est pour Eusébion, entraînez-vous à la piété. L'entraînement physique a une certaine valeur. Il ne dévalorise pas la forme physique, mais la piété a de la valeur pour toute chose. Tenir la promesse à la fois pour la vie présente et la vie à venir. Voici maintenant un autre dicton digne de confiance. C'est un dicton digne de confiance qui mérite d'être pleinement accepté. Et dans ce cas, ce dicton digne de confiance revient sur le passé, entraînez-vous pour cette raison et apportez-le à la banque. Ne doutez pas un instant que vous serez heureux si vous vous entraînez à la piété. Il peut être tentant de se laisser entraîner dans les spéculations du moment, mais Paul dit de rester concentré sur la piété. C'est pourquoi nous travaillons et luttons, conditions de travail, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et spécialement de ceux qui croient. Je l'ai déjà dit dans une conférence précédente, il est le sauveur de tous les peuples, puis il fait tomber son règne sur les justes et les injustes. Et il pourvoit à tout le monde. Il pourvoit à la subsistance de son monde à travers le monde naturel et sauve le monde chaque jour du jugement qu'il mérite et qu'il recevra un jour. Mais jusqu'à ce que ce jugement vienne, il sauve les gens au sens générique du terme. Mais il sauve particulièrement ceux qui croient en l'Évangile, puis ils entrent en communion avec lui et deviennent le peuple de son alliance. Paul continue avec ce que je transforme en lettres rouges et en commandes, et c'est un passage très riche en commandes. Il a posé les bases en décrivant Christ et en décrivant les qualifications du ministère et en décrivant la miséricorde et la grâce de Dieu, mais maintenant il se retrouve vraiment nez à nez avec Timothée et dit, Timothée, à la lumière du Christ, à la lumière de l'appel de l'Évangile, à la lumière des prophéties faites lorsque vous avez reçu le salut, commandez et enseignez ces choses. Et il y a encore ce verbe pour charger. Timothy est accusé, parce qu'il est accusé maintenant, il est accusé d'accuser d'autres personnes. Ne laissez personne vous mépriser parce que vous êtes jeune. Je ne pense pas avoir mentionné cela comme une observation, mais je le mentionnerai ici. Quel que soit votre âge dans le ministère, quelqu'un vous en voudra. Si vous êtes jeune, les personnes plus âgées peuvent utiliser cela comme un moyen de dire, eh bien, il est inexpérimenté ou elle est si jeune. Et si vous avez des enfants, que vous avez la trentaine ou la quarantaine, les jeunes et les personnes plus âgées peuvent dire, eh bien, vous êtes trop occupé avec vos enfants. Vous pouvez être critiqué parce que vous êtes dans cette période de la vie. Et puis évidemment, à mesure que vous vieillissez, nous sommes confrontés à une discrimination fondée sur l'âge. Et les gens disent, eh bien, il est de l'autre côté de la colline. Écoutez, il porte des appareils auditifs. Je ne porte pas d'appareils auditifs pour le moment, mais j'en ai parce que lorsque la Covid est arrivée, je n'entendais pas les filles de la classe parler à travers leurs masques. Alors, j'ai acheté des appareils auditifs et je n'entendais toujours pas les femmes parler à travers leurs masques, mais au moins j'ai essayé, mais ça m'a fait paraître plus vieux. Et vous devez simplement être préparé au ministère. Les gens saisiront toutes les raisons possibles pour vous critiquer. Vous vous habillez trop formellement. Vous ne vous habillez pas assez formellement. Tu portes un short dimanche soir. Vous ne devriez pas porter de short à l'église. Tu portes un pantalon dimanche soir. Vous ne devriez pas avoir l'air aussi formel pendant l'été à l'église. Je veux dire, c'est fou les choses que les gens utilisent pour vous discréditer en tant que ministre. Mais Paul prend juste celui-là. Timothy est évidemment plus jeune. Alors, dit-il, préparez-vous aux critiques et ne vous laissez pas affecter. Mais donnez l'exemple. Utilisez la critique pour vous motiver, vous pouvez le dire de deux manières, tendre l'autre joue, c'est une façon de le dire, ou garder des charbons ardents sur la tête. Par l'exemple que vous donnez. Pour les croyants en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Je ne pense pas que le « et » soit là en grec. Et quand il parle de pureté, cela donne l'impression qu'il a une liste établie en tête. Mais je ne pense pas qu'il ait une liste fixe. Je pense qu'il lance simplement des choses qui seront typiques de Timothée. Si Timothée est rempli du Saint-Esprit, qu'il commande, qu'il enseigne et qu'il reçoit des critiques, il répondra en étant exemplaire dans son service. Il l'entendra. Cela peut le blesser, mais il n'en voudra pas aux gens et il continuera à faire son travail et laissera Dieu trier les critiques. En attendant mon arrivée, rappelez-vous qu'il a dit plus tôt, j'espère y être bientôt. En attendant mon arrivée, consacrez-vous à la lecture publique des Écritures. C'est un indice que le culte de l'Église primitive était comme le culte de la synagogue. Dans la synagogue, ils lisaient les Écritures, puis quelqu'un donnait une interprétation et peut-être deux ou trois personnes donnaient une interprétation des Écritures. C'était le modèle de l'Église primitive. Et c'est la raison pour laquelle nous adorons comme nous le faisons. Que fait-on à l'Église? Espérons que nous lisons la parole de Dieu et pas seulement un ou deux versets pour le sermon, mais espérons que nous lisons beaucoup de versets plusieurs dimanches afin que les gens soient encouragés dans et par les Écritures en tant que congrégation qui a continué tout le chemin du retour. À Éphèse au 1er siècle. Consacrez-vous à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Et je ne pense pas que cela... Prêcher et enseigner, je ne pense pas que ces mots devraient nécessairement être séparés ici. Un bon enseignement exhorte et a cette sensation de prédication. Et bien sûr, quand nous prêchons, si nous n'instruisons pas, à un moment donné, ce n'est plus de la prédication chrétienne. C'est juste de l'utilisation de termes religieux. Jésus donnait toujours des instructions lorsqu'il prêchait. Je ne vois aucun discours dans les évangiles qui ne soit pas instructif, où Jésus ne fait que répéter des slogans là-haut. Nous devons donc ressembler à Christ dans notre prédication et Paul le recommande en appelant les gens. Et l'implication est que nous allons lire les Écritures et ensuite quelqu'un va les interpréter. Il y aura une prédication et un enseignement basé sur les Écritures. Paul revient à Timothée en tant que l'individu, ne négligez pas votre don, qui vous a été donné par prophétie lorsque le collège des anciens vous a imposé les mains. Cela fait peut-être la lumière sur l'incident mentionné plus tôt, à savoir qu'il devrait s'en souvenir et être encouragé. Plus de lettres rouges, soyez assidus dans ces matières et donnez-vous entièrement à elles pour que chacun puisse voir vos progrès. Observez attentivement votre vie et votre doctrine, et persévérez dans celle-ci, car si vous le faites, vous pourrez également traduire cela, et comme vous le faites, vous vous sauverez vous-même et vos auditeurs. Alors, quelques observations. Premièrement, un bon enseignant pastoral en pasteur transmet fidèlement ce qu'il reçoit. Il n'invente pas son propre scénario, son récit ou son programme. Et je pense ici au verset 6, « Si vous faites remarquer ces choses aux frères et sœurs, il lui a donné des instructions en 4 chapitres maintenant, il est censé intérioriser ces choses et les transmettre aux gens. » C'est ce que fait un bon professeur de pastoral à Shepherd. Il transmet ce qu'il reçoit. Il n'invente rien au fur et à mesure. Une autre observation est que le travail pénible est le lot quotidien de la pastorale et, en fait, de l'évangélisation chrétienne en général. Si nous regardons le verset 7, au milieu, entraînez-vous à la piété. Et puis il continue à partir de là. Nous devons vivre notre propre vie et prendre soin des autres en tant que chrétiens. Nous avons notre propre vie à vivre. Nous devons veiller à nos propres besoins. Hier soir, je me préparais pour aujourd'hui et j'avais à peu près tout prêt, mais cela m'a pris 40 minutes. J'étais très fatigué. Je voulais juste aller me coucher. J'avais besoin de me préparer, mais il m'a fallu 40 minutes de travail acharné juste pour me préparer à commencer le dur travail de la journée. Et surtout si vous êtes parent, combien de travail acharné il y a à faire juste pour empêcher votre foyer de s'autodétruire et maintenir les choses dans un ordre à moitié décent. Eh bien, la maison de Dieu a besoin des soins constants d'une équipe de soignants. Et l'exemple de sacrifice et l'exemple d'effort commence avec les dirigeants pastoraux et les dirigeants universitaires. Et si le pasteur et les diacres ne veulent pas ramasser un Kleenex et le narthex par terre, parce que c'est le travail du concierge, n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse. Dans mon commentaire sur les pastorales, j'ai toute une section sur le secret du succès de Paul, et c'est un peu ironique, mais je dis que c'est son éthique de travail. Il a travaillé. Et nous pourrions parcourir les pastorales, et en fait, dans cet essai, je le fais en quelque sorte. Je parcours 1 Timothée, 2 Timothée, Tite et je mentionne tous les endroits où Paul parle de labeur. Et travailler, et s'efforcer, et prendre soin, et s'entraîner soi-même. La Bible dit, et j'aime ce verset, « Tu travailleras 6 jours ». Le travail n'est pas une malédiction. Le travail a été maudit à cause du péché, il demande donc plus d'efforts qu'il n'aurait dû l'être. Mais c'est une bénédiction d'avoir la vitalité, la vision, le sens du but et les dons nécessaires pour faire quelque chose qui glorifie Dieu et profite au monde que Dieu a créé. Glorifier Dieu ne consiste pas à penser que vous êtes un Dieu glorieux. Je veux dire, c'est un bon point de départ. Mais c'est l'héritage de l'Ancien Testament, qui est encore vivant aujourd'hui parmi le peuple juif. Combien de lauréats du prix Nobel sont juifs? Il existe une philosophie dans le judaïsme, qui remonte au temps biblique, selon laquelle les gens s'attendent à faire quelque chose d'eux-mêmes. Ils ne croient peut-être même pas en Dieu, mais ils ont toujours cette vision selon laquelle il s'agit d'un monde que nous devons utiliser pour améliorer quelque chose. Et parfois, ce sont des juifs religieux. Et ainsi, ils améliorent le monde que Dieu a créé et ils croient en Dieu. Et c'est génial. Je veux juste souligner à quel point Paul et les apôtres parlent de travail et de labeur. Et pour en revenir aux qualifications, il y a plusieurs termes de qualification, respectable, quelqu'un que les gens peuvent regarder et dire, eh bien, il faut le lui remettre. Vous n'obtiendrez jamais cela si vous êtes paresseux. Et parce que beaucoup de pastorats le sont, c'est juste vous qui êtes le gérant. Et comme l'un des 7 péchés capitaux est la paresse, les pasteurs sont tentés d'être paresseux. Et c'est un péché. Et presque rien dans les épîtres pastorales ne fonctionne si vous ne le travaillez pas. Jésus a travaillé. Nous devons faire les œuvres de celui qui nous a envoyés pendant qu'il fait jour. La nuit vient où aucun homme ne peut travailler. Et quand on étudie la vie de Jésus, je ne dis pas qu'il n'a jamais pris de pause. Il avait au moins tous les sabbats, mais ce n'était pas un homme de loisirs. De plus, il n'était pas un col blanc. Donc, dans son héritage familial, il n'était même pas prévu d'être un cadre ou un travailleur du savoir. Nous avons besoin de cadres, nous avons besoin de travailleurs du savoir et nous avons besoin de cols blancs. Mais ils doivent avoir une philosophie de productivité, non pas pour le Tout-Puissant de l'art, mais pour la gloire de Dieu. Ils doivent travailler dur pour promouvoir la piété et pas seulement pour promouvoir leur banque ou leur société de courtage ou quoi que ce soit dont font partie leurs cols blancs. Donc, je ne peux pas en dire assez à ce sujet simplement parce que, je suppose, étant peut-être dans l'enseignement théologique et aussi, étant impliqué dans le travail pastoral, je vois à quelle fréquence la chute des gens et comment les gens ne réussissent pas. Et puis parfois, ils blâmeront. Ils blâmeront telle personne ou telle force ou l'époque ou quelque chose du genre. Mais il me semble que le principal facteur qui y contribue est le manque d'ambition et le manque d'effort. Les gens ont beaucoup de temps pour les choses numériques et électroniques, mais ils n'ont pas de temps pour les dissertations. Ils ont beaucoup de temps, je pense que c'est un Apple 6. Il n'a que 10 ans environ. Ils ont beaucoup de temps pour des choses autres que l'autodiscipline et l'abnégation qui sont nécessaires pour servir Dieu et servir les autres. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le service diaconiat. Nous avons également observé que le soin des âmes, à l'instar du Christ, exige un maximum d'efforts et de diligence. Je veux revenir au verset 11 à 16. Regardez toutes ces lettres rouges. Et c'est plutôt intimidant, en fait. Et c'est intimidant en raison de la façon dont cela prend beaucoup de temps. Et cela peut même vous amener à vous demander, est-ce que Paul pense vraiment cela? Surtout la toute dernière partie. Vous vous sauverez ainsi que vos auditeurs. Je pensais que Jésus était le Sauveur. Je pensais que Dieu était le Sauveur. Eh bien, oui, mais Paul dit ailleurs que nous sommes collaborateurs de Dieu. Et bien souvent, Dieu accomplit des œuvres de grâce remarquables en relation avec des serviteurs remarquables de l'Évangile. Et il y a des gens comme Paul, qui ont répondu à l'appel et se consacrent à la vision que Dieu leur a donnée. À un moment donné des actes, dit Paul, nous n'avons pas désobéi à la vision céleste. On lui a donné une vision de ce qui pourrait être et il s'y est entièrement consacré. Ainsi, au verset 15, soyez diligents dans ces domaines. Donnez-vous entièrement à eux pour que chacun puisse voir vos progrès. Maintenant, il y a une tension là parce que Jésus dit, ne pratiquez pas votre justice pour être vu des gens. Donc, je ne pense pas que Paul dise que je ne suis pas d'accord avec Jésus là-dessus. Timothée, tu sors en tribune et tu te fais un nom. Je ne pense pas que ce soit ce qu'il dit. Je pense qu'il dit que vous devez être tellement dévoué à votre ministère et à Christ que ce sera un témoignage et un encouragement pour les gens qui ne peuvent s'empêcher de vous voir. Si vous êtes leur pasteur, ils vous verront. Et s'ils vous voient simplement jouer au golf, boire du café et ne pas être proactifs dans les tâches qui doivent être accomplies, ils ne verront pas vos progrès. Et beaucoup de mauvaises choses vont arriver. Surtout, ils ne progresseront pas car pour qu'ils progressent, comme je l'ai déjà dit, il faut vivre sa vie et les servir aussi. Et chacun d'entre nous pourrait se retirer de tout ce qu'il fait et passer toutes ses journées à faire des choses pour son propre bien. Vous pouvez toujours imaginer de nouvelles choses à faire par vous-même. Lisez un nouveau livre ou procurez-vous un nouveau logiciel ou créez un nouveau jardin où il y a toutes sortes de choses. Mais en tant que chrétiens, nous devons faire attention à vivre notre vie pour nous-mêmes, car notre vie est à la disposition de Dieu et nous devons consacrer beaucoup de notre temps à des choses qui profitent aux autres. Je me souviens qu'en ma qualité de père, il y a eu une période de ma vie où j'ai eu une décision très difficile à prendre. Et c'était à propos d'un de mes plus jeunes fils qui avait décidé qu'il aimait vraiment un certain sport. Et ce sport était le baseball. Et j'étais très actif et occupé à l'église et dans mon enseignement au séminaire. Et il n'avait pas assez d'entraîneurs dans la Park District League pour avoir mon fils dans l'équipe parce que nous étions plus nouveaux dans la région. Il est arrivé sur la liste tard et il y avait beaucoup de garçons et il n'avait ni équipe ni entraîneur. Et alors, mon fils est venu vers moi et j'étais occupé à mon bureau et il m'a dit, « Papa, tu serais entraîneur. » Et j'ai dit non. J'ai dit que j'étais trop occupé. Je ne peux pas faire ça. Ce serait un gros engagement. Je ne vais pas le faire. C'était donc mon plus jeune fils. Et mon fils aîné, qui avait environ 13 ans à l'époque, est arrivé un peu plus longtemps, un peu plus tard, peut-être une heure plus tard. Il a dit, « Papa », et j'ai levé les yeux et j'ai dit, « Ouais, qu'est-ce que tu veux ?» Il a dit, « J'ai juste une question que je veux vous poser. Je sais que vous êtes très occupé et que vous avez beaucoup de choses à faire, mais il a dit, « Pensez-vous que dans 10 ans vous souhaiterez avoir écrit plus de livres et d'articles ou prendre le temps d'être l'entraîneur de Mike ?» Eh bien, ça m'a enfumé. Il fallait que j'y réfléchisse. Et j'avais une bonne relation avec mon fils. Donc, en tant que parent, il veut sortir d'ici, mais nous avions une bonne relation et j'ai respecté son jugement. Et moi, j'ai appris au fil des années à écouter vos enfants parce que parfois c'est un ange ou c'est un prophète. C'est ainsi qu'ont commencé 10 années d'implication dans l'entraînement de baseball. Une chose mène à une autre. Et il y avait un réel besoin pour les pères de s'impliquer dans cette communauté et de montrer de l'intérêt pour leurs fils. Et bien sûr, dans les sports collectifs, ce sont les fils des autres. L'une des choses qui s'est produite en conséquence, c'est que j'étais dans une église de cette communauté et j'étais plus récent dans la communauté, c'était une partie du pays dans laquelle je n'avais pas vécu. Et il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de personnes dans cette communauté qui avaient des enfants ou des petits-enfants qui pratiquaient ce sport dans cette communauté. Et les gens ne m'écoutaient pas vraiment dans l'église lorsque j'enseignais ou prêchais. Jusqu'à ce que je devienne entraîneur. Et du coup, j'étais quelqu'un qui comptait pour eux parce que j'avais établi des priorités, je veux dire, c'était quelque chose, n'est-ce pas? C'était mon enfant. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas donner la priorité à votre enfant dans le sport. Vous devez coacher toute l'équipe. Tu dois t'occuper de tous les enfants. Maintenant, tout d'un coup, la perception du public à mon égard était différente parce qu'en y revenant, j'avais écouté mon fils et j'avais décidé de travailler dur. Et est-ce dur d'être entraîneur de baseball? Comme tout coaching, si on le fait bien, c'est toute une autre couche de la vie, une autre couche de complexité. Vous n'en avez pas besoin. Mais la vie ne répond pas d'abord à nos besoins. La vie est avant tout l'appel de Dieu et les intentions de Dieu à notre égard. Et puis les choses humaines très terrestres qui composent nos vies constituent les opportunités dont nous disposons. Être au service de Dieu parfois en étant au service des autres. Et cela peut signifier prêcher des sermons, mais cela signifie souvent simplement du service communautaire. Ou dans votre quartier, avoir une cour ou une partie de la rue où les enfants peuvent venir et il y a un parent là-bas qui supervise et surveille les enfants parce que très souvent les enfants ont des ennuis parce qu'il n'y a pas de parents autour. Et c'est un sacrifice de prêter attention aux enfants. Mais il y a des ménages qui prennent la décision. Nous allons avoir un seul revenu. Nous allons avoir un parent à la maison. Nous allons prendre soin de nos enfants et cela ouvre la possibilité à d'autres enfants de s'en occuper également. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la diligence, il y a un niveau d'intensité qui peut être considéré comme excessif. Et je ne nie pas que nous puissions devenir trop zélés et aussi, je suppose que vous pourriez être un bourreau de travail. Vous pourriez briser votre santé. Vous devenez tellement fanatique que vous en êtes intolérable. Mais cela pourrait aussi être dû au fait que, dans notre société, les loisirs, le plaisir, les gains à la loterie, les voyages et toutes ces activités égocentriques qui sont tellement amusantes et agréables et qui nécessitent tellement de revenus, nous devons travailler, travailler et travailler de manière si nous pouvons faire du ski et faire différentes choses selon la partie du monde dans laquelle vous vous trouvez. Je pense que dans la plupart des régions du monde, il existe de nombreuses façons de se faire plaisir. Avec les moyens disponibles localement et sans vous embêter pour les autres. Et Paul appelle Timothée, à surveiller de près ta vie et ta doctrine, à persévérer en elle. Pas seulement votre doctrine mais votre vie, comment vous vivez, qui servez-vous? Comment passez-vous votre temps? Donnez-vous entièrement et soyez diligent à ces choses. C'est la clé du bien-être échatologique de vous et de ceux qui vous suivent. Et c'est un cas où Paul parle du salut dans le futur. Il ne doute pas ici de la justification et du fait que, dans un sens, par le décret et la promesse de Dieu, nous sommes sauvés avant la fondation du monde. Cela fait également partie de la vision biblique du salut et du peuple de Dieu. Ensuite, Paul situe souvent notre rédemption dans la mort du Christ. Nous avons été mis à mort avec Christ sur la croix et nous avons été ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans la gloire. Il pourrait en parler comme d'une affaire accomplie au calvaire et d'une affaire accomplie dans la vision future de Dieu. Mais ici, il envisage le résultat final, la récompense finale de tout notre travail, et comment cela se passe actuellement, cela ne colle pas. C'est un mystère et souvent, cela semble futile. Je me rendais très souvent au Soudan entre 1995 et 2012 et la sécurité a tout mis hors service. Des églises ont été rasées et des gens ont été arrêtés et nous nous sommes demandé si cela servait à quelque chose. Et quelques années plus tard, j'étais à un mariage dans l'est des États-Unis et il y avait des gens du Soudan. J'ai dit, « Qu'est-il arrivé à l'église ?» Et ils ont dit, « Nous avons grandi et nous sommes plus forts que jamais. » Et ils ont dit que, parce que nous avons tenu ces conférences pendant tant d'années, nous savons ce que nous croyons et elles ne peuvent pas nous briser. Et ainsi, vous voyez comment les choses peuvent apparemment être détruites, mais dans la sagesse de Dieu, il existe un calcul futur dans lequel la vraie vérité du présent sera vue. Nous ne voyons pas comment les choses se passent réellement. Nous voyons les choses comme nous les voyons et nous ne sommes pas Dieu. Et parfois, nous sommes sur une courbe descendante. Parfois, nous sommes dans une partie de l'histoire, nous sommes dans une partie du monde et l'Église est en train de mourir. L'Église est persécutée. Nous ne savons pas pourquoi. Certains jours, il est dit que le pouvoir de guérir n'était pas présent ou que le pouvoir de guérir était présent dans le ministère de Jésus. Jésus dépendait de la volonté et de la providence du Père et il allait d'un endroit à l'autre et ce qu'il pouvait faire ce jour-là, il le faisait avec foi et puissance ou le seul endroit dit qu'il ne pouvait pas y faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Est-ce encore plus vrai? Parfois, Dieu nous donne une mission et c'est dans un endroit où les choses vont dépérir. Mais le véritable test aura lieu le dernier jour. Et j'appelle ça et j'espère que vous aimerez cette expression. Mes élèves le font. La priorité ontologique du futur. L'ontologie est l'étude de la façon dont les choses sont. En tant qu'humains, nous faisons de notre mieux pour décrire ce que nous voyons et ce qui est, mais nous ne le savons vraiment pas parce que tout est sur une ligne qui progresse vers un jugement final. Et ce jugement final sera le verdict sur ce qui se passe actuellement et que nous ne pouvons pas voir. Ainsi, Timothée travaille dans la confusion, dans le bruit et l'opposition à Éphèse et il va voir des bonnes choses et beaucoup de mauvaises choses. Et Hyménée et Alexandre sont en arrière-plan et il y a ces gens qui déforment les choses et interdisent le mariage, oublie. Quel bordel! Et il va chercher des dirigeants et des diacres et essayer de les former. Et il y aura des contre-indicateurs pour progresser en cours de route. Mais je me demande pourquoi Paul, du verset 11 au verset 16, a autant de lettres rouges. Ce sont mes lettres rouges, pas les lettres rouges du texte grec ou les lettres rouges du texte anglais. Je viens de les mettre. Ce sont des choses qui sont des applications éthiques de l'enseignement de Paul. Il a toutes ces choses là-dedans. Si je peux utiliser une expression à laquelle je pense, qu'il utilise probablement dans tous les sports, mais il l'utilise certainement au baseball. C'est incroyable, plus je travaille dur, plus j'ai de chance, n'est-ce pas? Plus nous nous ouvrons au travail que Dieu nous permet de faire, plus nous serons fructueux. Nous devons simplement croire en Dieu et croire en Christ afin de ne pas limiter notre espérance en Dieu à ce que nous pouvons voir immédiatement comme résultat de nos efforts. Mais nous semons la graine chez un enfant de 2 ou 3 ans en espérant que lorsqu'il aura 12 ou 13 ans ou 42 ou 43 ans, ce que nous mettons en lui, Dieu en tirera du fruit. Et de la même manière, un mariage peut être très sec et stérile, mais nous avons foi en Dieu. Nous pensons qu'il peut en tirer quelque chose. Le leadership de la congrégation peut être une tâche très difficile, mais Christ est notre espérance parce qu'il est notre espérance et il est ressuscité et il règne. En persévérant, nous nous sauverons nous-mêmes et nos héros. Merci. Il s'agit du docteur Robert W. Yarbrough et de son enseignement sur les épîtres pastorales, l'instruction apostolique pour les dirigeants pastoraux et leurs disciples. Séance 5, 1 Timothée 4.